Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Maud Aigrin.
La télévision a-t-elle tué le cinéma ? Tel était le thème d'un colloque organisé le 18 mai dernier par l'association Démocratie Média, association présidée par Jean Cluzel, le secrétaire général de l'Académie des sciences morales et politiques. Le colloque s'est tenu à la Fondation Saint-Gervais-Polignac à Paris, en présence de son président, le chancelier Édouard Bonnefous. Alors, la télévision a-t-elle tué le cinéma ? La question est récurrente, à la mesure de sa complexité, tant il est vrai que les rapports entre le grand écran et le petit écran le sont également. Depuis la naissance du cinématographe des Frères Lumière en 1895, le visage du cinéma français a bien changé. Un chiffre seulement, en 1910, le cinéma hexagonal représentait 85% du marché mondial. 85%, un chiffre qui laisse rêveur aujourd'hui, car le cinéma français a connu au cours du XXe siècle plusieurs crises successives. La première, lors du passage du cinéma muet au cinéma parlant. Elle date de 1927. Avec l'introduction fantastique de la parole, le cinéma français a perdu de fait son envergure depuis l'avènement de la télévision. Ils reprennent vie sur les petits écrans, mais aussi via les vidéos et plus récemment les DVD. Un constat s'impose: si le cinéma a longtemps été un produit d'appel dans la programmation des chaînes, son audience s'est progressivement infléchie au profit des téléfilms. Résultat, une question se pose: qu'en est-il donc aujourd'hui de la programmation des films à la télévision? Pour tenter de répondre à cette question, 10 intervenants étaient conviés à ce colloque. Cette première émission vous permet d'entendre les propos des 5 premiers intervenants. Il s'agit de Jacqueline Aglietta, présidente de Médiamétrie, Suzanne Newman, analyste du département information sur les marchés et les financements à l'Observatoire européen de l'audiovisuel, Xavier Gouillou-Beauchamp, président d'Antalis TV, Geneviève Guichenet, médiatrice des programme à France Télévisions, et enfin Laurent Creton, professeur à l'Université Paris 3. Pour commencer, nous vous proposons donc d'entendre l'exposé de Jacqueline Aglietta. Elle est présidente de Médiamétrie, l'institut qui se charge de mesurer chaque jour les audiences des différents programmes sur chaque chaîne de télévision. Elle revient sur l'évolution de l'audience des films à la télévision. Elle est certes en recul, mais au final, c'est toujours le public qui oriente le choix des chaînes.
L'offre de films proposée au public n'a pas cessé de se développer au cours de ces dernières années. L'offre est très riche et extrêmement variée. Elle est proposée sur, et c'est ça qui en fait sa richesse, sur un grand nombre de supports, qui n'a pas cessé de croître, ce nombre de supports, au cours des 10 dernières années. Ça comprend les films proposés en salle, les films proposés en vidéo, que ce soit des cassettes ou des DVD, on verra, les films proposés à la télévision, mais sur le câble, le satellite, les chaînes payantes, les grandes chaînes généralistes, bien sûr, gratuites, voire depuis peu aussi, sur Internet. Alors parlons tout d'abord des films en salle. C'est la première fenêtre d'exposition du public au film cinéma. Depuis 10 ans, le nombre de films sortis en salle n'a cessé d'augmenter. Dans le même temps, les salles de cinéma se sont profondément transformées pour mieux attirer le public. Les exploitants des salles ont d'ailleurs créé des fameuses cartes d'accès illimitées. En 10 ans, le nombre d'entrées en salle a progressé de plus de 40%, malgré la concurrence de la vidéo, du câble et du satellite. Mais parallèlement, la durée de vie des films en salle a diminué. Alors, après sa sortie en salle, un film peut être proposé, selon la chronologie, la fameuse chronologie des médias, en vidéo. C'est pour donc le public la deuxième occasion de voir un film de cinéma. Et au cours de ces dernières années, qu'est-ce qu'on a observé? L'explosion de la vidéo. C'est un des phénomènes marquants qu'a connu notre pays récemment, avec la montée notamment de l'équipement des foyers en lecteurs DVD. Voici quelques repères. Aujourd'hui, près d'un tiers des foyers sont équipés de lecteurs DVD en 2-3 ans. Pour mémoire, le magnétoscope, en son temps, avait mis plus de 15 ans à s'implanter dans les foyers. Ce taux d'équipement de lecteurs DVD évoluera, semble-t-il, film parmi les 50 premières audiences télévision en 2003, alors qu'il y en avait le double une année avant. Et pour mémoire, 45 sur 50, donc des premières audiences, il y a 30 ans. Qu'en est-il à l'étranger aujourd'hui? phénomène est le même que celui que nous observons en France, de ce point de vue-là, aux États-Unis et sur les grandes chaînes généralistes en Europe. En Europe, en 10 ans, il y a eu en moyenne 4 fois moins de films entrant dans le palmarès des meilleures audiences. Alors, qu'en est-il des autres chaînes, en particulier de celles qui se situent donc avant les chaînes généralistes, des chaînes du câble et du satellite, ou Canal+. L'évolution n'est pas la même, loin de là. Sur le câble et le satellite, les chaînes cinéma représentent la deuxième thématique la plus regardée par le public, des abonnés à une offre évidemment élargie. Et elles ont même gagné un point de part d'audience en 2 ans et demi. Sur Canal+, depuis la rentrée 2003, la consommation de cinéma par les abonnés de Canal+ a enregistré des scores en nette progression de plus de 10% notamment. Alors face à l'érosion donc des audiences du cinéma sur les grandes chaînes généralistes, les grandes chaînes ont modifié leur stratégie de programmation au cours de ces dernières années. Sur ces grandes chaînes, la baisse donc les a conduits à en réduire l'importance dans leur grille en termes de nombre et d'emplacement, pour les remplacer par des téléfilms, des émissions de divertissement, ayant plus de chances de rencontrer leur public. Cela les a conduits à, plus précisément, réduire certaines cases hebdomadaires cinéma dans les grilles. C'est le cas, par exemple, je pense à la case cinéma du dimanche soir sur France 2, qui a été remplacée, il y a déjà quelqu'un d'en ailleurs, par une série. C'est récemment le cas de M6, là on a fait tout récemment, qui a remplacé sa case du lundi soir par l'émission de télé-réalité, on peut dire, le chantier. Cela a conduit aussi les chaînes à programmer aussi, les films étant devenus moins attractifs, de les programmer à des heures ou à des périodes de l'année, je dirais, moins stratégiques. C'est ainsi que 3/4 des films français sont programmés entre décembre et janvier ou entre juin et août. Alors, en résumé, le cinéma a longtemps été un produit d'appel dans la programmation des grandes chaînes généralistes. Son audience est progressivement infléchie au profit des téléfilms, des missions de divertissement, du documentaire, avec, il faut bien le constater, et c'était le but poursuivi, des résultats d'audience plutôt bons, meilleurs. Cela s'est fait dans un contexte de forte augmentation de l'offre cinéma sur tous les supports, les nouveaux supports notamment, le plus souvent payants, vidéo, thématique, câble, satellite, Canal+, etc., avec une conséquence positive, me semble-t-il, pour le cinéma, c'est globalement l'exposition du public aux films de cinéma a augmenté considérablement, avec une difficulté pour les grandes chaînes, qui héritent de films qui sont, on pourrait dire, un peu en bout de course, quand ils arrivent sur les écrans. Alors du côté du cinéma, on peut sans doute dire que les films s'adressent...
Canal Académie. On retrouve Maude Aigrin.
Nous reprenons cette émission.
49 et 51% du total. Environ 100 films en provenance d'autres pays européens sont diffusés et les films américains représentent entre 34 et 37% de l'offre. À noter la place extrêmement réduite accordée à des cinématographies non européens, non américains. Tournons-nous à présent vers les chaînes thématiques françaises dédiées au cinéma. Ici, nos données sont surtout issues de la mise en œuvre de la réglementation nationale concernant la programmation d'œuvres d'expression française, ainsi que de l'article 4 de la directive européenne Télévision sans frontières. 5 sur 11 chaînes respectent le quota d'œuvres cinématographiques européens et 7 sur 11 respectent le quota d'œuvres d'expression française. Entrons maintenant dans le vif du sujet, avec cette vue d'ensemble du nombre et de l'origine des films diffusés dans 6 pays européens. Je précise que les pays, c'est l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'âge le plus élevé de films européens. Mais ceci est bien entendu principalement dû à la place prépondérante des films de production nationale, s'élevant à 50% du total des films diffusés. Les films américains dominent largement en Espagne et sont également très présents au Royaume-Uni. L'Allemagne et la République tchèque sont les pays où les films européens non nationaux sont les plus programmés. Et la Grande-Bretagne réserve une place extrêmement restreinte aux films venus du continent. À noter finalement que les films non américains et non européens sont à peine présents sur les antennes françaises, tandis que les chaînes allemandes consacrent 7% de leur programmation à ces films, faisant notamment le bonheur des amateurs des arts martiaux de Hong Kong, je précise. Afin de disposer d'un panorama un peu plus large, regardons maintenant une série de données élaborées sur une base entièrement différente. Il s'agit d'un décompte du volume horaire total de films importés par les principales chaînes en clair dans les pays de l'Union européenne en 2002. S'agissant d'importation, les films nationaux sont entièrement absents de ces données. L'Allemagne, l'Italie et la Grèce sont les pays les plus demandeurs en termes d'importation, et les films américains sont ceux qui sont les plus importés, sans exception. À cette échelle, nous constatons que seule la Belgique, l'Allemagne et l'Italie importent une quantité significative de films français. En termes de pourcentage, nous voyons que la Finlande, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal sont aussi des pays demandeurs de films français. Ces films représentent au maximum 6% des importations en Belgique et moins d'1% en Autriche, au Danemark, au Royaume-Uni, en Irlande et en Suède. C'est la Grande-Bretagne et les pays nordiques qui sont le plus largement tributaires des importations américaines. Si nous nous penchons sur les films européens importés uniquement, quelques phénomènes intéressants sont mis en évidence. Et presque exclusivement des films américains, aucun film français et un petit nombre de coproductions européennes, impliquant très probablement un producteur britannique. La chaîne allemande Premier accorde également une grande importance à des films américains, tout en faisant une place à des films français qui forment environ 2% du total. Les films français sont aussi présents sur les chaînes de Canal+, de manière évidente en Belgique, mais aussi en Pologne, en Italie, en Suède et en Espagne. Mais en dehors de Canal+ Belgique, c'est la chaîne britannique Film 4 qui remporte le palmarès de l'importation des films français, avec 8% du total consacré à la production hexagonale et plus de 15% aux films européens en général. À part la valeur extrême qui représente Sky Cinema, la dépendance sur les importations américaines, qui nous constatons ici, se situe dans la même fourchette de valeur que les chaînes en clair, entre environ 60 et 80% du total. Nous n'avons passé en revue que quelques pays, mais les vues d'ensemble présentées au début de cette présentation ont mis en évidence l'hétérogénéité évidente des situations nationales, en particulier en ce qui concerne le nombre de films diffusés et les politiques de rediffusion. Point commun, néanmoins, la dominance des films américains dans les grilles de programmes. S'agissant d'importations, sans variation frappante entre les chaînes en clair et les chaînes payantes dédiées au cinéma. Heureusement, la production nationale est accordée une bonne place en France, en Italie et au Royaume-Uni. C'est sur les antennes des chaînes belges, allemandes, finlandaises, italiennes et portugaises que les films français ont été les plus présents en 2002. Mais, avouons-le, nous ne savons ni à quel moment ces films français ont été programmés, aux heures de grande écoute ou aux heures où seuls les insomniaques ont pu les voir, ni l'âge de ces films. S'agissait-il de l'Auberge en folie de 1957 ou bien de l'Auberge espagnole de 2002.
C'était Suzanne Newman, analyste du département information sur les marchés et les financements à l'Observatoire européen de l'audiovisuel. C'était ensuite au tour de Xavier Gouillou-Beauchamp de prendre la parole. Il est le président d'Antalis Télé. Il livre ici le point de vue d'un patron de chaîne pour qui la télévision ne doit pas être diabolisée à outrance. Xavier Gouillou-Beauchamp.
Il faut se souvenir que les chaînes de télévision ont une obligation de production qui est chiffré par quelque chose d'un chiffre assez artificiel, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, mais ce pourcentage du chiffre d'affaires, le pourcent est juste, mais le chiffre d'affaires est faux, mais ça peu importe. C'était 3% de montant d'un chiffre d'affaires théorique, et maintenant c'est 3,2% de chiffre théorique. Ce sont quand même des sommes au total considérables. Et parmi ces obligations, et ces obligations doivent être accomplies à travers des filiales. Donc, chaque société de télévision a une filiale de production. Il y a France 2 Cinéma, il y a France 3 Cinéma, etc. Ces filiales reçoivent l'argent, les fameux 3% ou 3,2%, et ensuite doivent investir dans des films sans jamais y avoir une position de contrôle, c'est-à-dire toujours des participations minoritaires. Et je reviendrai sur ce point. Cette activité de producteur, c'est une des responsabilités des dirigeants des télévisions, et c'est pourquoi j'en parle. Sur cet aspect des choses, c'est-à-dire l'activité de production, je crois qu'il faut mentionner, beaucoup de gens savent ça, mais je crois que c'est utile de le rappeler, le rôle tout à fait déterminant de Canal+. Donc, je parle de façon désintéressée, je n'ai pas été dirigeant de Canal+, mais Canal+ est dans une situation particulière, et on peut considérer grosso modo que la contribution de Canal+ à la production du cinéma est à peu près égale au total de la contribution des chaînes en clair, c'est-à-dire dans l'ordre d'importance en termes de chiffre d'affaires, TF1, France 2, France 3, M6. Et je vais vous dire un mot de la façon dont nous avons conçu notre rôle dans ce domaine, qui montre bien à quel point, en tout cas, les télévisions dont j'ai eu la charge, les télévisions publiques, étaient et sont, je dois dire, respectueuses de ce qu'est le cinéma. Car l'obligation de n'avoir de participation que minoritaire, elle relève d'un état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, et qui est un état d'esprit de méfiance à l'égard de la télévision, je crois, en l'occurrence, sur ce point justifié, c'est l'idée que ça n'est pas à la télévision de déterminer, même si elle apporte une contribution financière décisive, ça n'est pas à la télévision de déterminer ça, et j'en passe. Pour les Européens aussi, France 3 a été coproducteur de Bleu, Blanc, Rouge de Kieslowski. Ça, c'est une décision qui avait été prise au début des années 90, avant mon arrivée. Nous avons coproduit des films d'Almodovar, notamment Tout sur ma mère, qui a eu, je crois, un Oscar. Et puis, cette idée d'accompagnement du cinéma se traduit aussi par le fait que les télévisions publiques coproduisent des premiers films, des films de réalisateurs absolument inconnus, ou des deuxièmes films, c'est-à-dire après avoir détecté un réalisateur qui n'a pas eu nécessairement beaucoup de succès, mais dont on a pressenti des qualités, on lui permet de faire un deuxième film. Et à ce titre, il y a eu Cédric Kahn, Zonka, François Dupeyron, Desplechin. Et je dois dire que pendant ce temps-là, on a un peu affiné notre politique de coproduction de genre un peu en perdition. Alors, c'est ainsi que la télévision publique a réanimé, si je puis dire, le cinéma d'animation avec Kirikou la sorcière, qui a eu un succès fabuleux, mais ensuite également avec les triplettes de Belleville. Voilà. Autre genre un peu menacé, c'est celui du documentaire, et du documentaire diffusé en salle. Alors, on parle beaucoup en ce moment de être et avoir, mais ça, c'est sur les aspects un peu anecdotiques. Le film lui-même, qui était un documentaire destiné d'abord à la diffusion en salle, a été coproduit par Arte. Mais moi-même, par exemple, j'ai engagé France 3 dans France 3 ou France 2, je crois que c'est France 3, dans la coproduction du Peuple migrateur, qui est un film documentaire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je conclurai en disant simplement un mot, qui est que on se trompe de procès. Alors, il peut se faire qu'il y ait d'autres procès à faire. Par exemple, celui du système d'aide. Mais ça n'est pas mon sujet.
C'était Xavier Gouillou-Beauchamp, président d'Antalis TV. Nous marquons une dernière pause avant de reprendre cette émission.
Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde. L'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits.
Vous écoutez Canal Académie. Maud Aigrin.
Nous reprenons cette émission consacrée à la télévision et au cinéma après Xavier Gouillou-Beauchamp. A pris ensuite la parole Geneviève Guichenet. Elle est médiatrice des programmes à France Télévisions et elle a donc livré aux réflexions de chacun le point de vue des téléspectateurs.
Le point de vue des téléspectateurs sur le cinéma à la télévision, je serais tentée de dire qu'ils n'en pensent pas grand-chose. Du moins en apparence. Alors, pour ce qui est de leurs remarques, dans l'ordre, c'est pour se plaindre de la programmation tardive, des films jugés intéressants. Ils se plaignent également de la coupure des génériques de fin. Et ça, c'est un sport très répandu à la télévision. On comprend bien pourquoi. Le cinéma a, contrairement au passé, si vous avez en tête des films anciens où on voit le générique de début avec les acteurs, la musique, le réalisateur, énormément de monde au début. Maintenant, la façon d'aborder un film, c'est vraiment dès le début, ce qui fait que le générique viendrait perturber la manière dont le réalisateur attrape les spectateurs. Et donc, tout est à la fin. Et évidemment, pour les chaînes de télévision, s'il faut enchaîner sur la suite, il faut enchaîner sur la suite qui est souvent la publicité. Et par conséquent, il faut ou bien lire très vite, ou bien enregistrer, je ne sais pas. Et puisqu'on en est aux coupures, il y a une autre chose qui choque les téléspectateurs, dans ce qu'ils expriment encore une fois, ce sont les scènes coupées. Parce qu'on coupe aussi des scènes. Il faut savoir que certains téléspectateurs qui sont des fans de certains programmes, que ce soit des séries ou des films, les ont parfois vus en version originale, et ça c'est particulièrement vrai pour les films américains. Mais il faut savoir aussi que les films américains sont diffusés en Europe à partir de la version acceptée par la Grande-Bretagne. Et des téléspectateurs sont au courant que la version originale du film n'était pas comme ça et se plaignent de ces coupures. Coupures qu'on retrouve également dans les séries, ça c'est par peur du CSA. À cause de la signalétique, il y a un certain nombre de films un peu difficiles à autoriser. Bref, on agit un peu avec les ciseaux et ça les téléspectateurs soit le savent, soit s'en aperçoivent, mais en tout cas s'en plaignent énormément. Pour ce qui est des contenus, Comme il y a de moins en moins de films, il y a de moins en moins de plaintes aussi. Ce qui arrive parfois, ce sont des plaintes concernant les films américains, jugés parfois trop violents. Cela dit, il reste une autre manière qu'ils ont de s'exprimer à propos des films de cinéma à la télévision, expression en somme silencieuse, c'est quand on voit le triomphe qu'ils font aux fictions télévisées. Il est vrai que la fiction télévisée a, par rapport au passé, au grand, grand succès du cinéma, y compris à sa 72e diffusion, La 7e Compagnie, les téléspectateurs apprécient énormément la fiction télévisée et au fond, en l'appréciant, ils ont encouragé les chaînes à en faire davantage et à s'interroger sur les recettes de ces succès avec un mode de récit, avec un mode de fabrication et de mise à l'antenne qui correspond au petit écran, alors que parfois, il est vrai que des films de cinéma souffrent terriblement de leur diffusion sur le petit écran. Et c'est vrai que les audiences remarquables de la télévision par le passé, qu'elle faisait entre guillemets sur le dos du cinéma, a donné l'idée au cinéma évidemment de demander une contribution financière. Et au fond, à l'époque, personne n'imaginait que le nombre plafond, le cinéma s'est dit un jour on va être obligé de fixer un plancher parce que la télévision risque de presque se passer du cinéma. N'exagérons pas, mais d'abord parce qu'elle diffuse ce qu'elle a coproduit. Mais enfin, c'est pas complètement absurde d'imaginer que la tendance puisse continuer et que le cinéma, pour se défendre, soit amené à demander à ce qu'il y ait des planchers. C'est eux-mêmes qui ont évoqué cette perspective. On en est arrivé là sans doute parce que le piège, on est tombé collectivement dans un piège, c'est qu'on n'avait pas imaginé cette inversion de tendance. J'y vois une raison, moi, c'est que, mais peut-être je me trompe, c'est que la télévision continue, parmi ceux-là même qui sont amenés à décider sur ces chapitres, la télévision était, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui dans leur esprit, un genre méprisé. La façon dont c'était vécu, c'était en effet que la télévision faisait des audiences sur le dos du cinéma et que la télévision est un sous-genre artistique. Par conséquent, l'idée qu'un jour la télévision puisse avoir ses propres productions, qu'elles soient de qualité, qu'elles soient appréciées, et même, puisqu'aujourd'hui on en est là, attire et des réalisateurs et des comédiens dont on n'aurait pas imaginé il y a quelques années qu'ils viennent travailler pour la télévision. La télévision, ça existe et il n'est pas interdit de raconter des histoires et des fictions télévisées à la télévision. Un type comme Gérard Depardieu, me semble-t-il, est bien content de faire une belle carrière à la télévision aussi et de remplir des fauteuils dans les salles de séjour, les mauvaises langues prétendant qu'il m'en remplit plutôt moins dans les salles de cinéma. Un jour, Monsieur Berlusconi, version, c'est comme pour les films, il y a plusieurs versions de Berlusconi, à l'époque où il ne faisait que du BTP, du football et de la télévision, se voit proposer le rachat d'un catalogue de cinéma, d'une part, et puis on lui propose d'investir dans le cinéma. Il s'aperçoit que, finalement, les films qu'il a produits, coproduits, ne marchent pas en salle. D'une part, il s'est rendu dans les salles et il a vu l'état absolument lamentable à l'époque des salles de cinéma en Italie. Deuxièmement, il a fait un raisonnement, c'est lui qui nous avait expliqué ça à l'époque au CSA, disant « Je pense qu'on peut se déplacer, qu'on peut regarder un film de cinéma à la télévision, je pense qu'on ne peut pas voir un film de télévision dans une salle de cinéma. » Et il s'était lancé à ce moment-là dans une politique de production extrêmement ambitieuse et prestigieuse. Parce que, effectivement, les vases ne sont pas communicants et chacun, finalement, a tendance maintenant, peut-être, est-ce que là, il y a un avenir à faire du cinéma pour les salles de cinéma? Et c'est vrai que le cinéma contemporain, en particulier le cinéma qui vise un public considéré comme aujourd'hui le plus mobilisable, c'est-à-dire la jeunesse, ce sont des films qui passent plus ou moins bien à la télévision, encore que la jeunesse est prête à les voir sur tous les supports. Quand le cinéma se plaint de la télévision, bon, je crois qu'il faut aussi qu'il s'interroge sur pourquoi on va dans une salle. Qu'est-ce qui fait déplacer dans une salle? Il se pose incontestablement la question.
du rôle accru de la télévision dans l'économie du cinéma, c'est la dissociation croissante du film et de la salle. Parce que finalement, ces nouveaux supports, en fait, pour une part, se cumulent, mais en définitive, la filière cinématographique s'en trouve bouleversée avec une dépendance toujours accrue vis-à-vis du système télévisuel qui est devenu son principal débouché, son principal financier. La situation paradoxale actuelle, c'est qu'on a reproché à la télévision une dépendance trop grande et en même temps on lui reproche actuellement de ne plus financer aussi facilement le cinéma que par le passé. C'est-à-dire qu'en définitive, l'idéal pour le cinéma, ça serait que l'argent vienne sans contrepartie. Dès lors qu'il faut évidemment intégrer quelques autres exigences, la relation devient un peu plus tendue. Au fond, c'est que la relation biunivoque entre le film et la salle s'est progressivement délitée au profit d'un système économique composite fondé sur la multivalorisation du film de cinéma sur de nombreux supports. Dans le cas d'une dynamique de concurrence-coopération entre le marché primaire de la salle et l'ensemble des autres marchés que l'on qualifie encore de secondaires, alors qu'ils sont devenus prépondérants. On pourrait multiplier les chiffres sur ce point, je ne le ferai pas, mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que dans les dépenses des ménages en programme audiovisuel, le cinéma en salle ne représente plus que 14%. Pendant la première partie du XXe siècle, c'était 100%. En 1980, c'était 50%, le reste étant la redevance. Autre chose aussi à rappeler, c'est que sur 100 films de cinéma qui sont vus, il y en a 4 au plus qui sont vus en salle, et donc 96 ailleurs, et notamment à la télévision. Ce qui évidemment signifie un changement très profond, et amenant à nous réinterroger sur ce que l'on continue à appeler cinéma. Alors, deuxième idée, le cinéma comme fondement d'une valorisation transposée. C'est que finalement, à partir des années 80, la fonctionnalité de la salle, qui était la remontée des recettes, cesse d'être centrale, et on se demande si la salle de cinéma n'en vient pas à se trouver un nouveau rôle, qui est celui de vitrine, qui participe de lancements promotionnels, indispensables à l'établissement de la notoriété des films, pour une rentabilisation pour l'essentiel ultérieure. Donc ça voudrait dire que la cinématographie serait du côté de la création, un certain modèle de création, qui n'est pas exclusif d'autres modèles de création tels que les téléfilms, mais que la salle de cinéma donnerait le label cinématographique, mais en quelque sorte avec une rentabilisation qui se ferait pour une part en salle, mais plus largement sur les autres supports, dans des rapports de complémentarité et d'intérêts croisés. Ceci étant d'autant plus net que l'on voit des sorties de DVD très proches de la sortie en salle, et au fond le sentiment pour le spectateur téléspectateur, parce que c'est le même, même si la structure des publics ne sont pas les mêmes, qui peut avoir le sentiment que, en définitive, ce film sorti en salle sera très rapidement disponible en DVD, très rapidement sur telle ou telle chaîne de télévision. Ce qui veut dire que le cinéma prend de plus en plus un statut de produit d'appel, et la force d'attraction qu'il garde explicite quand même les convoitises qu'il suscite afin de générer une valorisation marchande transposée. Au fond, le cinéma, tel que on continue à le définir, risque d'être noyé dans un grand magma audiovisuel communicationnel au sein duquel il serait pour l'essentiel un faire-valoir. Il y a donc à s'interroger ici. En fait, une telle évolution peut-elle être pensée uniquement en termes d'adjonction de canaux de distribution supplémentaires, ou est-elle de nature à remettre en cause assez fondamentalement le charpentage de la filière, tous les rapports entre production, distribution, exploitation étant largement redéfinis? Le troisième point est celui de la convergence des modèles, parce qu'au fond, en France, depuis longtemps, la distinction entre cinéma et télévision est très affirmée. Aux États-Unis, les choses sont différentes. C'est-à-dire aussi bien dans le mode n'a pas à supporter le poids d'un budget lourd relativement à des conditions très incertaines de réception du public en salle. Le dernier point, finalement, est-ce que ces évolutions ne produiraient pas un épuisement de l'aura cinématographique ? Parce qu'au fond, cette aura du cinéma et les pratiques qui lui sont associées et qui sont largement mises en scène, qui sont largement promues, y compris au travers de certains festivals, je pense à celui de Cannes qui est le deuxième événement médiatisé dans le monde, cette aura du cinéma, quoi qu'on en pense, est le cœur de son capital. les spéculations autour des catalogues de droits en constituant la traduction la plus explicite. La télévision est intéressée par l'exploitation de cette aura, mais réciproquement, les films de cinéma, il faut le dire, y bénéficient d'un formidable espace de diffusion, mais aussi d'un support de promotion et bien sûr de financement de premier plan. Si bien que, pendant longtemps, les films de cinéma ont été considérés comme une valeur sûre pour garantir un... Mais nous avons vu que ces derniers temps, et c'est une interrogation centrale de notre colloque, ils gardent cette position-là, à la fois en termes d'audience et de prestige, probablement de moins en moins. L'audience tend à se répartir et à se fragmenter. Deuxième idée de conclusion, c'est que la filière cinématographique, conforme à l'architecture économique et aux fondements technologiques originels, demeure. Elle demeure. Mais elle n'a pu se maintenir qu'au prix d'un processus d'amalgame et de quasi-incorporation au sein d'un ensemble industriel qui relève d'un autre paradigme. Paradoxalement, elle est à la fois préservée dans une intégrité minoritaire de figure de ce qui fut et crée encore de la valeur pour cette raison même, et désarticulée en raison de la prééminence fonctionnelle, financière et marchande du modèle de la distribution communicationnelle multicanaux. En s'acheminant vers un modèle plus éclaté, ces composantes sont entraînées à participer, sans doute à leur corps défendant, d'un processus de recomposition industrielle qui affecte la carte des territoires et des souverainetés. Mais au fond, la question formulée en termes de dualité cinéma et télévision est déjà largement dépassée par la montée en puissance d'un troisième terme intégrateur, les industries de la communication. Avec le développement très rapide du marché du DVD, se pose aussi, et c'est une perspective à examiner, la question du rééquilibrage et de la constitution d'un nouveau modèle économique pour le cinéma qui serait moins dépendant du financement des chaînes de télévision. On cesserait de s'en plaindre et on trouverait qu'en définitive, ces 40 ou 50% étaient bien exagérés et qu'il faut revenir à une répartition des financements qui soit plus équilibrée. Et je termine en pointant le fait que la moindre audience du cinéma à la télévision, du moins la moindre audience des films programmables en prime time des chaînes de télévision généralistes, pourrait être une bonne nouvelle. La télévision pourrait devenir plus télévisuelle et le cinéma plus cinématographique, en étant programmé de manière plus spécifique sur des chaînes spécialisées et en bénéficiant de débouchés accrus en vidéo, notamment grâce aux DVD, mais tout ceci renvoyant davantage à un modèle éditorial et bien moins à un modèle de flux.
C'était Laurent Creuton, professeur à l'Université Paris 3. Voilà pour les 5 premiers intervenants de ce colloque qui tentaient de répondre à une question toujours sensible. Je rappelle cette question, la télé a-t-elle tué le cinéma ? Une seconde émission sera consacrée aux 5 intervenants suivants.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.